notre cher frère John Thomas reviendra vendredi. Il ne souffre plus, mais il rayonne autour de lui. Et son cochambriste, qui a été opéré, que j'avais vu en passant, qui avait dit que ce n'était pas grand-chose qu'il avait, simplement un polype. Et puis en l'opérant, on a dit à son épouse que c'était le cancer. Alors son épouse a demandé à John Thomas de prier pour lui, alors que nous ayons une petite prière pour lui tout à l'heure. Puisque les prières de la communauté sont si efficaces, demandons un second miracle de la Sainte Vierge. C'est vrai, je veux y croire. Hein? Alors demandons à la Sainte Vierge ça. Que la Sainte Vierge veut bien. Puisqu'il a été auprès de John Thomas, alors on mettra déjà une petite auréole autour de lui. Il le mérite bien entre nous, hein, je crois. Alors. Préparons-nous spirituellement, communautairement, à la Pentecôte, pour les prises d'habits, pour les professions simples, puis pour les professions perpétuelles. Le démon rôde toujours, hein, autour des professions, et les prises d'habits aussi, qui s'attache au vieil homme. Alors je tiens à vous rappeler, parce que je crois que c'est quand même bon de se rappeler, au fond, nous formons une grande famille. Faire que tous qui prennent l'habit, on est tous frères dans le Seigneur. Et dedans, il y a plusieurs demeures. Mais vous comprenez bien que l'amour qui nous unit est au-dessus de ces demeures. Je dis bien, il y a plusieurs demeures, puisque de fait, je crois qu'il faut que nous soyons vraiment religieux, consacrés au Christ, dans ce qu'il y a de plus foncier, de plus radical en nous. La vie monastique, n'est-ce pas, en comprenant bien ce que ça veut dire, que ça ne vous effraie pas, non ? Parce que faut pas effrayer. La vie monastique, c'est tout simplement être consacré à Dieu, hein ? Radicalement. On est seul en face de Dieu, et on se consacre en face de Dieu. Et alors, on a décidé, on en reparlera au Père Abbé, puisque il faut quand même que toutes ces choses-là passent par le Père Abbé, et soient confirmées par le Père Abbé. Mais avec les prophètes, de plus en plus, on voit que la prise d'habit doit être prise d'une façon très large. Et quand je dis très large, ça ne veut pas dire pas très sérieux. Hein. Très large, ça veut dire que ceux qui prennent l'habit font partie de la famille. 100%. Tous. C'est très important. Parmi ceux-là, il y en a qui, pour une raison ou pour une autre, ça ne nous regarde pas, ne feront pas de vœux. Ne feront pas de vœux tout de suite. Ça mettra peut-être un peu plus longtemps. Je dis ça pour qu'on puisse avoir toute la miséricorde de la Sainte Vierge. Je crois ça tellement important. La famille de la Sainte Vierge, c'est la famille qui est basée sur la miséricorde. Et non pas sur la justice. Vous voyez, on ne doit pas se dire est-ce que celui-là il va rendre service à la communauté. C'est pas ça qu'on regarde en premier lieu. Est-ce que c'est son bien? Et quand on dit à quelqu'un non, ne prenez pas l'habit, c'est parce que vraiment, en face de Jésus, on considère que ce n'est pas son bien. Sa place n'est pas là. Dans l'esprit de famille. Il y a un esprit de famille. C'est difficile de préciser l'esprit de famille. Hein. Ça se vit. Et puis petit à petit, je vous ai dit ce matin, je parlais au noviciat, je disais, il faut réfléchir sur le charisme de la communauté Saint-Jean. C'est très difficile à préciser le charisme. Alors l'esprit de famille, c'est la même chose, mais c'est plus intérieur. Il y a une espèce de marque de la Sainte Vierge, particulière. La Sainte Vierge nous appelle Jean. Chacun d'entre nous, mon petit Jean. Hein, c'est comme ça qu'elle nous appelle. Elle nous aime de cette manière-là. Il faudrait que pour chacun, nous redécouvrions ce regard de la Sainte Vierge. Alors, certains ne feront pas de vœux. Ne croyons pas nécessairement, parce qu'on prend l'habit, qu'on fera des vœux. Non. Mais je dis bien, la famille, c'est tous ceux qui prennent l'habit. Tant qu'ils n'ont pas l'habit, ils sont en attente. Vous voyez bien, ils sont en attente. Ils font déjà partie, on leur ouvre les bras tout grands. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a une marque de fabrique. Comme on ne peut pas atteindre l'âme, on la met sur le corps. Vous voyez, il y a les sacrements, c'est l'âme, ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Mais on met un habit. Ce qui fait que c'est quand même un esprit de famille. On porte le même habit. Puis il y en a qui feront leurs vœux. Et parmi ceux qui feront leurs vœux, je répète parce qu'il y a eu des petites confusions l'autre jour, alors je veux que ce soit clair, clair. Que vous compreniez bien qu'il n'y a rien derrière de tricherie ou de choses qui sont derrière ceux qui feront leurs vœux. Ceux qui feront leurs vœux, il y en a qui feront des vœux simples, ce qu'on appelle des vœux simples, c'est-à-dire on fait des vœux pour 3 ans, mais ça peut durer toute la vie. Puisqu'il y a des ordres, vous savez bien, qui répètent leurs vœux tous les ans même, les filles de la charité. Et ça, c'est Saint Vincent de Paul qui a compris par charité. Faire des vœux tout le temps pour répéter, reprendre. Alors elles font tous les vœux. Et chaque année, elles sont libres, elles peuvent partir comme elles veulent. Ça ne veut pas dire qu'on est libre, hein. Vous voyez, on est libre humainement parlant, mais divinement, le Seigneur nous poursuit, hein. C'est sûr. On a mis le petit doigt dedans, il nous tient. Alors, il y en a qui feront des vœux toujours temporaires. Puisque pour le moment, on ne peut faire des vœux perpétuels que si on va 4 mois à l'Érins. Et puis le reste du temps à Montmorin. À Montmorin, tout le monde sait que le Père Emmanuel, il a la même perspective que nous. Il fait partie de la famille. Il m'a écrit l'autre jour un petit mot au retour de ces quelques jours là-bas. Il m'a dit merci, merci de me considérer comme étant de la famille, comme étant de la communauté Saint-Jean, même si canoniquement c'est pas encore fait, selon le cœur c'est fait. Alors vous voyez, ça rejoint bien ce que je vous dis. Et il faut que nous comprenions cela. Mais les 4 mois de l'Érins, on doit faire un petit peu attention, parce que certains sûrement ne les supporteraient pas. Ce serait trop difficile. On ne peut faire des vœux perpétuels qu'après les 4 mois de l'Érins, jusqu'au nouvel ordre. C'est-à-dire, nous sommes, vous le savez bien, au point de vue canonique, nous sommes ad experimentum pendant 7 ans. Ça ne veut pas dire en état d'expectative, hein, traduisez pas, non. Oui, je dis ça, c'est parce que j'ai la réflexion de quelqu'un qui m'a dit, de quelqu'un dans l'église qui m'a dit, oui, la communauté Saint-Jean ad experimentum, on verra dans 5 ans. Je dis, non, on voit tout de suite. C'est vrai, on voit tout de suite le chiffre de la vie. Tout de suite, marqué. Et plus le vivant est parfait, plus il est vite marqué. Parce que Dieu commence tout de suite par la perfection. Alors comme on est entre les deux, la terre et le ciel, vous voyez, c'est assez vite marqué ça. Avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a bien été marquée du chiffre de la vie dès le point de départ, hein, immaculée dans sa conception. Alors je ne dis pas qu'on est immaculé, hein, mais il y a quand même quelque chose. On appartient à la Vierge Marie, on est de sa race, de la descendance de la femme. Alors on est marqué très vite. Et ça, c'est très vite, on voit très vite ça. Alors, seuls ceux qui passent à l'Érins font des vœux perpétuels jusqu'au nouvel ordre. Encore 2 ans. Après, l'Église demandera un moment de réflexion. On demandera à tous les sages de la communauté de réfléchir, de dire leur avis, de dire ce qu'ils désirent, parce que c'est la communauté qui se déterminera. Bien évident. Rome s'orientera, dira oui ou non, devant diverses hypothèses. Mais c'est la communauté. Et dans la communauté, les prophètes et les prophètes perpétuels. Mais les prophètes, parce que dès qu'on fait profession, on a le droit de voter, vous voyez, pour certaines choses. On paie ses impôts, c'est ça que ça veut dire. Mais, parce que dans la vieille république grecque, il n'y avait que ceux qui payaient leurs impôts qui avaient le droit de voter. Vois. Alors, la profession, tandis que les autres qui ne font pas profession, ça leur est égal, le reste, de voter ou pas, ça n'a pas grande importance. Mais c'est simplement au point de vue canonique. Et puis les prophètes perpétuels. Et jusque nouvel ordre, seuls les prophètes perpétuels peuvent être présentés, peuvent être appelés au sacerdoce. Puisque c'est les prophètes perpétuels qui sont liés au Père Abbé comme oblat de l'Hérens et incardinés dans l'abbaye de l'Hérens par le Père Abbé. Et alors c'est le Père Abbé qui les présente. C'est le Père Abbé qui présente aux ordres. Vous voyez ? L'entrée ne dépend pas du Père Abbé. L'acception dans la communauté. Non. On prévient le Père Abbé après coup. Mais pas avant. Je dis ça, c'est pour que vous sachiez. On va avoir une visite du Père Abbé. Il faut savoir un peu exactement ce que le Père Abbé pour nous. Mais, parce que c'est important, il ne faut pas tout mêler. Alors, quand on reçoit quelqu'un, le Père Abbé dira, un tel, vous l'avez reçu, il a une drôle de tête. Hein. Il dit, oui, il a une drôle de tête, mais il a un cœur d'or. Vous verrez bien, c'est évident, mais un cœur d'or. Peut-être que vous ne l'auriez pas accepté, mais nous, on a la miséricorde de la Sainte Vierge, alors on reçoit. On regarde le cœur, il a un cœur d'or, alors c'est merveilleux. C'est vrai, on regarde les intentions. Et je crois qu'il faut acquérir ça au point de vue profond. Il faut que la communauté soit entièrement donnée à la Sainte Vierge. Et donc qu'on arrive à avoir le goût de la Sainte Vierge. Hein. Le jugement de Marie, c'est pas toujours commode. Alors Marie, elle aime les pauvres types et puis ceux qui ont 5 talents, 10 talents. Alors, dès qu'elle voit quelqu'un de 10 talents, vite, vite, là, dans la communauté Saint-Jean. Alors, évidemment, quand on se présente, on dit, j'ai 10 talents, donc je fais beau ici. Non, non, non. Ou bien, elle dit, j'en ai pas du tout, j'en ai rien du tout, donc je suis fait pour ici. Oui. Oui, c'est la différence du langage. C'est pas le même langage. Hein. Celui qui n'a pas de talent, il sait, pauvre type. Toujours un peu sur le. Je serai toujours un peu à côté, vous voyez. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes fait partie de la famille de la Sainte Vierge. Et la famille de la Sainte Vierge, c'est ça. C'est ça. Et peut-être que dans le ciel, ils passeront avant qui ont dit talent, mais qui ont été paresseux, qui ont été orgueilleux, qui ont été vaniteux en disant tout le temps, j'ai 10 talents, moi. Tandis que celui qui aura presque rien. Et qui sera resté auprès de la Sainte Vierge, vous savez, comme le jongleur de Notre-Dame. Petit dialogue particulier entre la Sainte Vierge et le jongleur de Notre-Dame. La Sainte Vierge, comme une mère, elle demande à ses enfants uniquement ce qu'ils savent faire. Les professeurs, c'est différent. Ils font passer des examens. Mais une mère, jamais, jamais passer des examens. Et plus ils sont pauvres, plus la mère, elle les aime. Elle dit, je sais bien, mais tu me ressembles. Alors, il y a ça, il y a cette pauvreté. J'ai toujours eu, moi aussi, beaucoup de peine dans ce sens-là. Alors, je comprends bien. Et je suis là auprès de toi. Et c'est ce que dit la Sainte Vierge. Hein. On n'est jamais trop pauvre, la Sainte Vierge. Intérieurement, c'est évident. Mais même extérieurement, que voulez-vous? Alors, il ne faut pas jouer à la bêtise. Hein. Non, non, ça ne va pas. Il faut être le plus vrai possible, le plus vrai possible, puisqu'on cherche la vérité. Mais voyez, c'est très important, le Père Abbé pour l'entrée. L'entrée, c'est de fait, hein, le Père Philippe-Marie, le Père Alain-Marie, puis moi-même. Hein, Quand ils entrent, c'est bien, il y a trois sources, vous voyez. Alors, il y en a qui remontent, les poissons remontent par tel, d'autres par tel. Et puis, il y a un petit lac commun où on se retrouve. Alors ça, c'est l'entrée, n'est-ce pas ? Puis l'entrée, quand on est regardant, puis alors après, c'est quelque chose de plus quand on demande d'entrer. Là encore, ça ne regarde pas le Père Abbé. La prise d'habit non plus. Vous avez remarqué la dernière fois que le Père Abbé était là ? C'était très beau du reste. Je remarquais que le Père Abbé m'a laissé au milieu pour donner l'habit. Il était à ma droite. C'était un petit signe très caractéristique. C'était du reste normal. Et vous savez, c'est normal, mais quelquefois on se dit, c'est pas toujours le normal qui est respecté. Alors, le Père Abbé s'est effacé, la prise d'habit et les premiers vœux. Alors, les reins s'interviennent pour le point de vue des vœux perpétuels. Ce qui fait, vous voyez, la règle de Saint Benoît, notre règle de vie. Si c'est très curieux la manière dont la Très Sainte Vierge a conduit les choses, parce que je vous affirme, je n'avais aucun projet initial en disant « ce sera comme ça, pas du tout ». J'aimais beaucoup les reins et je continue de l'aimer beaucoup, c'est Saint Bernard. On doit aimer Saint Bernard. Et on a un lien avec Saint Bernard, tout le temps. On restera avec un lien avec Saint Bernard. Parce que Saint Bernard est un saint si merveilleux dans la pauvreté, dans l'amour qu'il a pour la Vierge Marie, dans l'amour qu'il a pour le Christ, dans son désir d'intimité avec Jésus, cantique des cantiques. Saint Bernard, il faut le relire de temps en temps, ça, parce que c'est bon de se plonger dans ce que Saint Bernard apporte. Saint Bernard a été pour Saint Thomas une des sources pour l'amour. La vieille Aristote, puis Saint Bernard. C'est beau de voir les deux qui se tiennent, n'est-ce pas, dans le traité de Saint Thomas pour comprendre ce que c'est que l'amour. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, et l'Église l'a reconnu. Et c'est quand l'Église l'a reconnu qu'on peut être sûr que c'est vraiment de Dieu. Ben vous voyez, je dis ça, c'est parce que je rappelle toujours, et c'est important, nous sommes une famille religieuse, monastique, la famille de Saint Jean, donc la famille de Marie. Et le sacerdoce, c'est l'Église qui nous le donne. Si elle le juge bon, si elle le juge utile. Mais la chose première à laquelle nous devons tous tendre profondément, c'est suivre l'agneau. C'est ça la caractéristique. Suivre l'agneau partout où il va, jusqu'au bout. Suivre l'agneau jusqu'à la croix, jusqu'au calvaire. Vivre vraiment ce mystère de suivre l'agneau le plus que nous pouvons pour être entièrement donné. C'est ça l'essentiel, c'est d'être entièrement donné, être offert avec Jésus, pour qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut. Et c'est de cette manière-là qu'on est unis les uns avec les autres. C'est de cette manière-là qu'on forme une famille, parce qu'on sait que si on est totalement donné au Christ, on peut être totalement donné à ses frères. Et on peut aller jusqu'au bout des exigences de la charité fraternelle. Il faut qu'au point de vue de la charité fraternelle, il n'y ait aucune distinction entre, vous voyez, ceux qui sont prêtres, ceux qui sont uniquement prophètes, saints, et puis ceux qui ont la vie, simplement, qui sont des frères. On mettra peut-être des petites étiquettes, je ne sais pas comment on les appellerait. Mais ils sont des frères, tout simplement, parce que c'est le nom de tous qui doit être donné à tous. Et pour des raisons très diverses, vous savez, moi je crois qu'il faut respecter ça dans le monde d'aujourd'hui. Il faut que nous respections une famille dans sa diversité, et dans sa profonde diversité. Quand on a connu et qu'on appartient à une famille nombreuse, on sait la diversité. On connaît la diversité. les gens de l'extérieur disent, ils se ressemblent tous, on voit l'arnaque de la mer, c'est... Oui. Puis les frères et sœurs se regardent en rigolant comme des fous, en disant, ils ne comprennent rien du tout. Hein. Si vous voyez ce qui se passait, vous voyez qu'on est tellement différents les uns des autres. Et c'est très vrai, on est tellement différents les uns des autres, heureusement. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'on est d'une même famille. Et on le sent. On est d'une même famille, on a le même esprit qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de la Vierge Marie. Ben, on a le même esprit, on a le même langage. On peut parler librement entre nous parce qu'il y a cette confiance totale. Et là, cette famille, elle se prolonge, c'est évident. Elle se prolonge. Nos sœurs, les oblats, ça fait partie de cette grande famille. Et il faut que ça fasse partie de cette grande famille. Et tous ceux qui sont des amis, vous voyez, pensez-y, hein, pour le pèlerinage de Rome. Je voudrais beaucoup que ce pèlerinage soit, vous voyez, quelque chose qui fasse une très grande unité parmi tous ceux qui sont les amis de Saint-Jean et qui vraiment doivent vivre du même esprit. On en parlera plus à la Pentecôte, mais c'est bon d'y penser déjà, parce que même ceux qui ne viendraient pas à la Pentecôte, il faut leur dire. Je crois qu'on peut déjà fixer ça maintenant. Ce sera du vendredi soir, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Hein. Je crois que c'est ça. Alors, puisque je crois que certains disaient le mercredi, qu'il fallait mettre le mercredi, parce qu'il y a toujours l'audience du Saint-Père. Le mercredi, mais je crois que si on met le mercredi c'est le 3, hein, si j'ai bonne mémoire. C'est pas ça, c'est le 2. Regardez bien. Dites-moi. Il y a dimanche, lundi, mardi. Parce que, quoi ? Mercredi 2. Bon, alors le mercredi, bon c'est ça, mercredi 2. Donc il y a samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je crois qu'on peut mettre le mercredi, le 2. Hein, mercredi 2. Ça fait 5 jours, hein, c'est bien ça.
Mais... Ça veut dire qu'on rentre
le... Ah oui, c'est-à-dire qu'on quitte Rome, forcément, il faut une nuit et demie.
Il faut donc avoir une autre audience que celle du mercredi.
Oui, il faut avoir une autre audience que celle du mercredi. C'est ça qu'il faut. Une audience pour la communauté Saint-Jean, par surcroît. Demandez ça au Saint-Père. Mais il faut y penser. Vous pouvez penser déjà dès maintenant, et vous pouvez inviter tous ceux qui sont des amis et qui comprennent qu'on fasse, c'est un pèlerinage qu'on fait, une retraite ambulante, vous voyez, un train, c'est l'immense avantage. Alors vous voyez, c'est une retraite ambulante, et puis là-bas, on essaiera d'être groupé, et puis peut-être, si on peut, avoir diverses... Parce qu'on sera pas mal de prêtres, alors il pourrait y avoir quand même pas mal qui pourront prêcher, faire qu'il y ait un esprit commun qui se crée et une très grande unité. Alors, il faut y penser dès maintenant, il faudra y penser spécialement à la Pentecôte. Il faut déjà jeter des jalons. Hein? C'est bon, jeter ça, des jalons, pour que ça puisse se faire et qu'on puisse vraiment réaliser ça pleinement et totalement ensemble. Pour cet esprit vraiment d'unité qui doit se réaliser entre nous, parce que la Très Sainte Vierge y tient beaucoup. On m'a demandé, petit papier, on me l'a déjà dit, j'avais dit de me le rappeler, parce que vous avez bien, il ne faut pas hésiter de demander certains sujets qui peuvent vous intéresser spécialement. Alors, c'est un sujet sur lequel on revient toujours. On a raison de revenir toujours là-dessus. Alors, ceux qui ont fait leur théologie, ils n'ont qu'à le revivre. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, ça leur précisera certaines choses. C'est le grand mystère de la présence de Jésus au milieu de nous et dans l'Eucharistie et au plus intime de notre âme. Le grand mystère de la présence. Et ça va bien avec le mystère de la résurrection, puisque Marie a vécu, grâce au mystère de la résurrection, une présence toute nouvelle dans cette expérience de la nuit pascale. Et après, tant qu'elle est restée sur la terre, elle a vécu une présence toute spéciale. Alors, parlons de ces diverses présences de Jésus. Avant, il faut se rappeler ce que les théologiens appellent la présence d'immensité. Ceci, c'est d'ordre religieux, la présence d'immensité. La présence d'immensité, c'est la présence de Dieu créateur. Dieu ne fait pas nombre avec sa créature. Parce que nous avons toujours beaucoup de peine. C'est pour ça qu'un père de l'Église n'hésite pas de dire que Dieu est comme une mère qui ne dépose jamais son fardeau. C'est une très belle image, c'est une image. Parce qu'en réalité, c'est qu'une image. Parce que le fardeau de la mère, son petit enfant, il est autre. Tandis que lorsqu'il s'agit de la créature et du créateur, il y a cette chose très mystérieuse que nous n'arriverons jamais à saisir pleinement. Nous affirmons que ça ne peut pas être autrement, au point de vue philosophique et au point de vue théologie naturelle. Si Dieu est créateur, tout vient de lui. Forcément. Il ne peut pas y avoir quelque chose en dehors, sauf le péché. Il n'y a que le péché qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'autrement, ça vient de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu continue de créer le démon. Dieu continue de soutenir dans son acte créateur tout ce qui existe. Il communique l'être, la vie, l'esprit. Mais il communique l'être, il crée l'être, il communique la vie, il communique l'esprit. Si on parle un langage précis, il crée l'être. Et l'être est entièrement soutenu par l'acte créateur de Dieu. Alors ça, c'est le grand mystère de la présence, vous voyez. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. Ça, c'est très simple à comprendre psychologiquement, intentionnellement et affectivement, on le sait très bien. Il y a quelqu'un qui est absent dans la communauté, il y en a certains qui s'en aperçoivent et d'autres qui s'en aperçoivent pas. C'est curieux. Il y en a tout de suite qui disent, tiens, qu'est-ce qui est arrivé, lui, il est parti. Puis d'autres qui comment se fait-il que certains êtres, certaines personnes, sont plus présents à notre cœur, à notre intelligence, que d'autres. Évidemment, un professeur, il est présent parce qu'il donne des cours. Alors, quand il ne donne pas de cours, vous comprenez, il y a un vaste vide qui se fait, et alors on dit, merveille, on pourra le remplir par autre chose. Tandis que, on n'est pas dupes. Alors, c'est vrai, on est présent par son action. Un professeur est présent par sa parole, par le fait de communiquer la vérité. Du moins, il cherche à communiquer la vérité. Et dans la mesure où cette vérité est reçue, il y a une présence. Il y a une présence qui se fait. Il y a une autre présence qui est une présence affective. Alors ça, c'est la présence affective de quelqu'un qu'on aime profondément, qui nous est profondément uni, qui fait qu'il est présent. Intentionnellement présent. Et on s'en aperçoit surtout à l'absence. Parce que quand il est présent habituellement, au bout d'un certain temps, on s'y habitue. Tandis que quand il est absent, ah, on dit tiens. Et un autre est absent, on s'en est pas très bien aperçu. Heureusement que ça ne se voit pas, vous comprenez, parce que on dirait dans une communauté, quand il y en a un qui est absent, oh, là, là, tout de suite, les quantités, ça fait du remue-ménage intérieurement, affectivement, intentionnellement. Tandis que d'autres sont absents. Personne ne s'en aperçoit. C'est vrai, ça, c'est un fait, que voulez-vous, c'est un fait. En dehors de la fonction qu'on joue, quand on joue, quand on a une fonction importante, évidemment, on est obligé de léguer au suivant, n'est-ce pas? Alors tout le monde s'en aperçoit. Mais autrement, uniquement quelqu'un qui n'a aucune fonction, n'est-ce pas? Aucune fonction. Parce que le chantre, il a une fonction. Quand il est là, on entend sa voix, il agit, n'est-ce pas? Et on pâtit agréablement. Les gens pâtit agréablement, on entend. On est en communion profonde, et on répond. Et quand il est absent, un vide. C'est très curieux le phénomène de la présence et de l'absence. Hein. C'est important de réfléchir là-dessus. La connaissance affective joue un rôle très important sur le... Qu'est-ce que c'est que la présence? Qu'est-ce que c'est que l'absence? Mais nous devons toujours réfléchir de cette manière-là, hein, en essayant de comprendre ce que c'est. Comprendre qu'il y a des présences diverses, humainement parlant. Et puis il y a une présence. Comprendre qu'il y a des présences diverses, humainement parlant. Et puis il y a une présence radicale qui est la présence d'immensité du Créateur par rapport à nous. Mais elle n'est pas au niveau psychologique. Elle n'est pas au niveau intentionnel. Elle est au niveau de l'être. C'est parce que Dieu me communique mon être, mon exister. Je ne dis pas son existence, hein, parce que Dieu me communique mon existence. Qu'il y a un lien tout à fait particulier entre lui et moi-même. Et que ce lien est actuel. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu ne peut pas servir d'instrument pour créer. Et donc c'est un lien substantiel, de substance à substance. Et les bons scolastiques, Jean Saint Thomas, a cette expression très forte en disant « le Créateur imbibitur hein ». Alors on voit très bien ce que ça fait, intraduisible. Imbibitur, ça exprime très bien. C'est que tout l'être créé est comme imbibé, complètement imbibé. Et alors, vous voyez, l'exemple de l'éponge n'est pas vrai, parce que l'éponge est extérieure. C'est extraordinaire d'essayer de réaliser un tout petit peu, c'est beau du reste. Comment mon être créé, mon être participé, est entièrement porté par Dieu. Pas d'intermédiaire. C'est une relation active du côté de Dieu. Dieu est présent dans la mesure où il agit. Il agit comme créateur. Il me communique mon être, mon exister. Alors votre exister, il est présent à travers tout votre être. Hein. C'est le to anthropo ein einein, cette expression si belle. Hein. C'est l'être à l'homme, c'est l'être à moi, mon être, hein, mon être, mon exister. Il est au bout de votre petit doigt, de mon petit doigt, il est au bout de mes cheveux, c'est mon être, ça existe quand même ça. Même si de temps en temps ça tombe, ça n'a pas d'importance, ça existe. Mon être, c'est tout ce que je suis. Et Dieu agit directement. Présence d'immensité. Il me donne cela. Gratuitement. Intelligemment. Selon sa sagesse. Et je suis suspendu. Et dès que je reconnais ça, affectivement, je réponds par l'adoration. La présence d'immensité appelle l'adoration. Oui, c'est pour ça qu'il faut souvent penser à la présence d'immensité pour comprendre l'importance de l'adoration. On ne comprend pas l'importance de l'adoration tant qu'on n'a pas essayé de réaliser un tout petit peu, hein, au plus intime de son intelligence et de son cœur, ce que ça représente, cette présence extraordinaire de Dieu. Rien n'est indifférent à Dieu. Rien n'est indifférent à Dieu. L'indifférence, ça n'existe pas en Dieu. ça n'existe que dans certains pays. L'indifférence. Et dans certains cerveaux. Et dans certains cœurs qui sont comme de la pierre. L'indifférence n'existe pas en Dieu. Il n'y a pas d'indifférence en Dieu. Dieu ne peut pas être indifférent. Parce qu'il est le Créateur. Et celui qui agit de cette manière radicale communique l'être. Il crée. Et puis il communique le point de vue de la vie. Et puis il communique le point de vue de l'amour. Et il communique le point de vue de la lumière. Et alors, c'est cette présence que je dois essayer de comprendre, comment Dieu est présent au plus intime de mon être. Et je réponds à cette présence par un acte d'adoration. Mais je n'ai pas l'expérience, je l'affirme. Je sais que ça existe. Je le sais en tant que croyant, et si j'ai fait un tout petit peu de philosophie et de métaphysique, je le sais au niveau de mon intelligence. Alors à ce moment-là, mon intelligence me fait comprendre la grandeur de l'adoration. La communication de la grâce. C'est autre chose, ce n'est plus mon être. La communication de la grâce qui est faite au plus intime de mon âme spirituelle, de mon âme en tant qu'elle est capable d'être surélevée et de devenir enfant de Dieu. La communication de la grâce va réaliser une nouvelle présence surnaturelle. Ce n'est plus la présence d'immensité, celle-là c'est Dieu en tant qu'il agit sur moi et en tant qu'il me finalise. Cette présence de la grâce va me permettre d'avoir avec Dieu une relation directe, objective, de connaissance et d'amour. Il va y avoir comme une réciprocité, tandis que la créature ne peut pas répondre du même amour par laquelle elle est aimée. En tant que créature, je suis toujours radicalement dépendant. Par la grâce, je suis toujours radicalement dépendant, c'est sûr, parce que je suis une petite créature. Mais la créature est transformée par la grâce. Et elle devient enfant de Dieu. Et là, il y a ce que saint Thomas appelle présence objective de la très sainte Trinité. C'est l'habitation de la très sainte Trinité au plus intime de ma volonté, au plus intime de mon âme, au plus intime de moi-même, dans ce qu'il y a de plus profond en moi. Au plus intime. C'est au-delà de la psychologie, hein. C'est pas le moi profond psychologique, hein. Le moi profond psychologique, il est superficiel. C'est le moi radical, transformé par la grâce. Et la grâce me donne un abîme nouveau de profondeur. Et la grâce me permet alors de vivre à l'unisson de la vie de Dieu, de vivre la vie de Dieu, et de vivre la même vie que Dieu vit. C'est le prolongement de la vie de Dieu. Et il y a cette relation réciproque dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'amour. Je réponds à Dieu. Dieu me voit, Dieu m'appelle, Dieu m'aime. Et je le connais, j'entends son appel et je l'aime. Au fond, la vocation d'Abraham, c'est quand même ce premier moment où la grâce est donnée de cette manière si étonnante. Avant, on essaiera d'expliquer, je ne l'explique pas ici, n'est-ce pas ? Avant. Mais avec Abraham, c'est cela. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham parce qu'il y a une relation réciproque. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu qui se met en référence avec son enfant bien-aimé. Et il est le père de son enfant bien-aimé. Et alors, dans la foi, nous vivons de cette nouvelle présence qui est une présence objective, en ce sens que c'est une présence personnelle, personne à personne, dans l'intimité la plus grande. Cette présence de grâce peut se réaliser en se servant d'un instrument. Et l'instrument, c'est l'humanité sainte de Jésus. Et l'instrument, c'est le cœur de Marie. Alors, comprenons bien ces deux instruments qui sont différents. L'humanité sainte du Christ est un instrument conjoint. Donc, dans une proximité unique qui fait que l'humanité sainte du Christ est comme l'instrument privilégié par lequel le Verbe de Dieu, l'Esprit Saint et le Père nous communiquent la grâce. Et parce que l'humanité sainte du Christ est cet instrument privilégié, on peut dire que nous sommes présents à l'humanité sainte de Jésus, à l'humanité glorieuse du Christ, dans la même qualité de présence. Il y a une petite modalité différente, mais dans la même qualité de présence que pour le Verbe, le Père et l'Esprit Saint. Vous voyez la différence, c'est que lorsqu'il s'agit de la Très Sainte Trinité, puisque la Très Sainte Trinité est le Créateur, elle est un Dieu unique qui est le Créateur. Et donc la présence de grâce s'enracine dans la présence d'immensité. Et la présence de grâce, par la présence d'immensité, et grâce à la présence d'immensité, va avoir ce réalisme unique de substance à substance. Dieu, comme créateur, est plus présent à mon être que je ne suis présent à moi-même. Et le Verbe de Dieu est présent à ma grâce sanctifiante, à mon âme sanctifiée par la grâce. Le Verbe de Dieu est plus présent à mon âme sanctifiée par la grâce que la présence que j'ai de moi-même dans la foi et l'amour. Et donc il y a une présence d'intimité personnelle qui est unique. Le Verbe, l'Esprit Saint et le Père. Et l'humanité sainte de Jésus, puisque le Verbe l'assume et s'en sert comme d'un instrument. Toute grâce qui m'est donnée passe par l'humanité sainte du Christ, par le cœur glorieux de Jésus, par l'âme glorieuse de Jésus, par son corps glorieux. Alors, je peux dire que l'humanité sainte du Christ est plus présente à mon cœur, transformé par la grâce, que je ne suis présent à moi-même. Puisque l'humanité sainte du Christ est instrument de grâce. Marie, elle est instrument de grâce comme médiatrice, comme mère. Et l'Esprit Saint s'en sert toujours, selon ce que dit le Père Kolb. Chaque fois que l'Esprit Saint agit sur nous, ben il se sert du cœur de Marie. Et donc il y a une présence surnaturelle, divine, de Marie auprès de mon âme, selon le bon plaisir de Jésus, qui est intime. On peut dire que le cœur de Marie est plus présent à mon cœur que mon cœur n'est présent à lui-même. Dans l'ordre de la grâce. Pas dans l'ordre de l'être, mais dans l'ordre de la vie surnaturelle. Comprenons bien. Dans l'ordre de la vie surnaturelle. Donc dans l'ordre de la contemplation, dans l'ordre de cette habitation profonde. J'habite dans le mystère de Dieu par Marie, par Jésus. Et Dieu veut habiter en moi par l'humanité sainte du Christ et par le cœur de Marie. Il faut bien comprendre cette présence mystique. C'est ça qu'on appelle la présence mystique, celle de foi et de charité. Ça échappe complètement à ma psychologie, hein, comme tout l'ordre surnaturel. Complètement, parce que c'est de l'ordre directement de la finalité de cet objet, où Dieu agit directement. Et tout notre mystère de l'oraison consiste à vivre de cette présence, à naître de cette présence. Alors comme c'est dans la foi, vous comprenez, quelquefois, on reste dans l'obscurité totale, on y croit, on reste dans l'obscurité totale. Et quand le Saint-Esprit souffle un tout petit peu, il fait vibrer. Il y a le tressaillement du petit Jean-Baptiste. Et le petit Jean-Baptiste commence à vibrer. Et il y a un petit tressaillement surnaturel et divin qui fait que je sais, il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Et je me livre et je m'offre et je me donne. Alors il y a l'adoration toujours à l'égard de la présence d'immensité. Et cette adoration se change en une adoration en esprit, en vérité, parce que cette adoration s'achève dans l'unité de vie, dans l'unité d'amour, dans un regard intime. C'est du dedans que Jésus me voit, et je le vois comme celui qui est présent plus intime de moi-même. Jésus me donne son corps et son sang en nourriture. Nouveau type de présence. La présence de Jésus sous un mode sacramentel. Cette présence est donnée pour la croissance de la grâce et de l'amour. Cette présence est donnée parce que je vis dans la foi et l'espérance. Au ciel, la présence sacramentelle n'aura plus de sens, parce que nous serons dans la vision. Mais vous savez ce que dit saint Thomas ? Très fort. Il dit, au niveau de la charité, au niveau de l'agapé, au niveau de la charité, la présence mystique que je vis ici sur terre est la même que celle que je vivrai éternellement. Au niveau de la charité. Et il dit ça en s'appuyant sur saint Paul, puisque la charité demeure. Et cet amour qui me lie au cœur du Christ, qui me lie au cœur de Marie, qui me lie à la très sainte Trinité, cet amour est un lien substantiel d'intimité, d'amour, de proximité. Ici sur terre, il se réalise dans la foi, c'est-à-dire dans l'obscurité. Dans le ciel, il se réalisera dans la lumière. Donc au point de vue de la foi, tout sera changé. Ce sera le passage de la foi au lumen glorié. Mais au point de vue de l'amour, c'est le même. Il y a une continuité. C'est pour ça qu'on est déjà dans le ciel. Hein. On a le droit de le dire. Au point de vue de l'amour, au point de vue de mon cœur, dans ce qu'il y a de plus profond dans mon cœur, je suis déjà dans le ciel. J'y aspire de tout mon être et j'y suis. Mais je sais très bien que subjectivement, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Ça ne regardera pas de la même façon. Mais, par rapport au mystère même de Dieu, dans la charité, il y a une continuité. Alors, parce que, à cause de la foi et de l'espérance, ma charité peut grandir et doit grandir. Mes 10 talents doivent en devenir 20. Mes 5 talents doivent en devenir 5. Et mes 2 talents, ou 1 talent, ou 1 demi-talent, doit en devenir le double. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Hein. C'est pour ça qu'il y a une croissance. La foi et l'espérance permettent sa croissance. Et pour la croissance, il nous est donné une nourriture. Une nourriture divine. Une nourriture parfaitement adaptée. Le régime par rapport à la vie contemplative. C'est extraordinaire, ça, de la sagesse de Dieu. Préfigurée par la manne, qui était le régime des hommes du désert. Eh bien, il y a un régime divin qui nous est donné, c'est l'Eucharistie. C'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ qui nous est donné. Et Jésus est présent dans l'Eucharistie, per modum substantiae. Il est présent selon un mode particulier, per modum substantiae. Oui, c'est bien difficile à comprendre, hein, parce que vous n'avez aucune expérience psychologique de cette présence. Mais dans la foi, vous pouvez comprendre. Dans la foi, vous pouvez comprendre que cette présence est substantielle d'un type tout à fait nouveau. Ce n'est pas la même présence que Jésus dans le sein de sa mère. Ce n'est pas la même présence que Jésus quand il était auprès de la Très Sainte Vierge à Nazareth. C'est un autre mode. Ce n'est pas la même présence que Jésus dans la gloire. Cette présence mystique, c'est une présence symbolique, mais d'un symbolisme divin, c'est-à-dire réel, mais caché. Et elle est donnée selon ce mode sacramentel, c'est-à-dire elle est donnée par mode de nourriture pour me permettre d'aller toujours plus loin dans la présence mystique. Les sacrements sont ordonnés à l'augmentation de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et donc pour que la présence mystique de cette terre soit plus intense. Après chaque communion, normalement, il devrait y avoir une présence plus intense, une présence plus forte. La communion est faite pour cela. Alors voyez, cette présence de l'Eucharistie, elle est là pour nous aider. Elle est un signe divin, un signe divin, un appel divin, un appel silencieux. Parce que nous vivons de la présence mystique dans l'obscurité de la foi. Alors nous avons besoin de ce soutien. Nous nous appuyons sur le cœur blessé du Christ, sur le cœur eucharistique du Christ. Jésus nous est donné dans l'Eucharistie, il nous est donné comme nourriture. Et donc dans une proximité plénière pour transformer notre cœur en son cœur, c'est en sens là qu'on s'appuie, et pour que la présence mystique soit plénière, c'est-à-dire qu'elle soit toujours plus parfaite. Donc, la présence eucharistique, vous voyez, elle a un mode très particulier. Je crois qu'on pourrait faire cette analogie, pour ceux qui... au point de vue philosophique, ont compris la différence entre ce que c'est que la présence substantielle et le point de vue de l'intentionnalité. Dans l'Eucharistie, le corps du Christ nous est réellement donné par mode de substance, per modum substantiae. L'âme du Christ nous est réellement donnée. Et toute la divinité du Christ, le Verbe de Dieu nous est donné. Mais selon un mode sacramentel. Alors c'est là l'analogie avec l'intentionnalité. Mais c'est une intentionnalité divine, puisque les sacrements, c'est Dieu qui les a inventés, c'est pas l'homme. On dit que l'intentionnalité, ça, c'est moi qui secrète l'intentionnalité. Tandis que là, c'est une intentionnalité divine. C'est Dieu qui fait ce pont mystérieux. C'est pour ça que je prends l'analogie de l'intentionnalité. Par l'intentionnalité, on devance. Le gland, c'est déjà le chêne. La semence, c'est déjà le vivant, intentionnellement. Eh bien, le sacrement devance la vision béatifique. sous un mode caché, obscur. C'est la hâte de l'amour qui devance et qui vient au-devant. C'est Jésus qui vient au-devant de moi pour me réveiller, pour m'empêcher de dormir, pour me donner un désir plus grand. Alors c'est Jésus qui vient au-devant de moi et qui vient de cette manière la plus humble qui soit sous le mode de la nourriture, sous le mode du pain et du vin. Il vient au-devant de moi pour me transformer, pour me prendre complètement dans son unité d'amour. C'est donc un mode, voyez, qui est totalement, ce mode de présence eucharistique, totalement ordonné à la présence mystique, c'est bien évident, pour intensifier cette présence. C'est pour ça que dès que nous communions, nous vivons cette présence eucharistique, cette présence sacramentelle, pour être entièrement saisi par le pain véritable qui est Jésus, par le cœur du Christ tel qu'il est dans la gloire, tel qu'il a été à la croix. C'est pour vivre de la blessure de l'agneau et par la blessure de l'agneau, vivre cette présence du Père et de l'Esprit, la présence de l'Esprit et du Père. La présence eucharistique est donc le moyen divin inventé par la sagesse de Dieu pour combler l'absence. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est si important de comprendre ce que c'est que la présence et l'absence. Parce que vous ne comprenez bien l'Eucharistie que dans la mesure où vous avez compris que l'Eucharistie vient combler l'absence. Une absence, comprenons bien, une absence qui n'est pas une absence, puisque Dieu ne nous quitte pas, mais une absence du côté de notre intelligence, du côté de notre vision, du côté de la possession. Dieu nous est donné, mais il nous est donné à travers l'espérance et la foi, à travers l'obscurité de la foi et la pauvreté de l'espérance. Et parce que justement, il y a cette absence à cause de la pauvreté de l'espérance et de l'obscurité de la foi, on a besoin d'un signe. D'un signe qui a un réalisme substantiel. D'un signe divin qui a ce réalisme merveilleux, que c'est vraiment le Christ qui se donne à moi. C'est la différence entre l'Eucharistie et la parole. La parole divine est bien un signe qui m'est donné. C'est la lettre que j'ai reçue du Saint-Esprit. J'ai reçu une lettre admirable, le Cantique des Cantiques. C'est admirable d'avoir reçu cette petite lettre intime du Saint-Esprit. Et je l'ai reçue. J'ai reçu cette lettre admirable de l'Évangile de Saint-Jean. J'ai reçu cette lettre admirable de l'Apocalypse. Tout ça m'est donné. Mais la parole, voyez, c'est bien un signe divin. Mais la parole n'a pas le même réalisme que l'Eucharistie. C'est un signe d'attente qui nourrit ma foi. L'Eucharistie nourrit ma foi et mon espérance et mon amour avec tout le réalisme du don actuel. Et c'est ça qu'il faut essayer de saisir de plus en plus dans notre vie. Nous devons comprendre que les sacrements et le sacrement de l'Eucharistie, sacrement par excellence, est là pour combler l'attente. Et quand je dis combler l'attente, me donner le sens de l'attente et me faire comprendre la hâte de Dieu. Et plus je comprends la hâte de Dieu, plus je comprends l'absence. C'est le sacrement de l'absence, hein, l'Eucharistie. Parce que c'est cette présence mystérieuse et cachée. Et c'est le sacrement qui me donne le sens très très grand de l'abîme qui existe entre la condition terrestre dans laquelle je me trouve actuellement, la condition de foi et d'espérance, et un jour où tout s'éclatera dans la vision béatifique. Alors ça, l'Eucharistie fait comprendre cela. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder l'Eucharistie par rapport à notre condition de viateur et l'état du ciel, c'est intermédiaire. C'est le pont qui unit les deux. C'est la présence et l'absence qui m'aide à vivre avec une intensité plus grande et qui m'aide à ne pas oublier l'époux, à ne pas oublier l'ami, à rester comme celui qui met toutes ses énergies à être en attente du retour du Christ. Il faudrait, voyez, pour bien comprendre cela, regardez la manière dont Marie, je reviendrai peut-être la fois prochaine, Marie a vécu de ses présences. Et comment Marie nous apprend d'en vivre.